Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de la reine des batailles, ou en tout cas ce qui est traditionnellement désigné comme tel, à savoir évidemment l'artillerie et son utilisation dans la guerre en Ukraine et notamment dans la bataille, dans les opérations du Donbass depuis quelques semaines. J'ai le plaisir d'être en ligne avec Ryan Nourdali, sous-officier dans la Royal Artillery britannique, que les auditeurs connaissent bien maintenant, car vous étiez notamment venu dans un épisode d'All Bunker il y a un certain temps, pour nous parler de ce film fantastique qui est le Jarhead de Sam Mendes, et beaucoup plus récemment dans le format Tête chercheuse, pour nous parler de questions, de problèmes de culture militaire, et notamment du danger de la confusion entre le métier de soldat et l'image et le folklore du guerrier qu'on trouve parfois dans certaines armées ou certaines unités, c'était il y a deux semaines à peine. Donc bonjour Ryan, bienvenue à nouveau dans le Collimateur.
Bonjour Alexandre, et absolument ravi d'être de retour dans votre podcast.
Alors je vais simplement dire, on ne va peut-être pas vous avoir toutes les semaines dans le podcast non plus, parce que vous avez d'autres choses à faire quand même, mais en même temps, je peux dire que l'épisode sur la culture militaire et sur l'éthique du guerrier, on l'avait enregistré il y a longtemps maintenant quand vous étiez passé à Paris, et puis là il se trouve que depuis quelques semaines, l'artillerie est un élément parfaitement central de ce conflit. En fait, depuis le début de l'invasion russe, mais aussi et surtout dans cette bataille du Donbass qui fait rage depuis quelques semaines et même en fait depuis quelques années, mais on va en reparler. Et de fait, des artilleurs, j'en connais pas personnellement des centaines, et ça m'offrait par ailleurs l'occasion de vous réinviter. En outre, c'est bien pour tout un tas de raisons, notamment parce que ça permet de décentrer un peu le regard en ayant le point de vue d'un officier, d'un sous-officier britannique. Je vais rappeler aussi que cette émission s'inscrit dans une série qui vise à analyser ce que la guerre en Ukraine nous apprend ou nous a appris sur certaines armes, certaines composantes des armées modernes, dans un essai, disons, de rétex, à chaud, qui est évidemment un peu hasardeux, mais en même temps, je crois qu'on commence à avoir eu un peu le temps d'observer les choses, et ce déploiement donc extrêmement massif de l'artillerie, et d'en tirer quelques conclusions. J'allais dire, maintenant que la fumée est retombée, mais justement pas du tout, la fumée est encore là, mais évidemment, on commence à avoir en tout cas un peu de recul, même s'il faudra évidemment continuer à abonder et à enrichir tous ces diagnostics avec la suite des opérations. J'ajoute que tout ça est d'autant plus intéressant que l'artillerie est une arme qui est, je crois, très particulière, parce qu'elle est complètement centrale et en même temps mal connue. Je veux dire, ça fait des décennies, voire des siècles, qu'à peu près tous les stratèges et tous les chefs militaires proclament sa centralité. On peut dire que, par exemple, Staline, on reparlera du rapport de Staline, enfin du rapport des Russes à l'artillerie, mais Staline l'a qualifié de dieu de la guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Et l'artillerie russe a évidemment une importance historique très forte. Et en même temps, c'est aussi une arme dont on a moins de représentation, peut-être parce que c'est moins spectaculaire, bon, et encore, mais en tout cas c'est moins proche du contact direct, des lignes de front, disons, qu'un avion de chasse ou un char d'assaut. Et donc, Ryan, j'aurais aimé commencer, disons, par un effort de définition très simple sur ce qu'est l'artillerie, évidemment. Alors, bon, c'est pas facile, personnellement, quand on pose la question... Je dis que l'artillerie, ça veut dire des gros canons, ce qui est probablement pas faux, mais on peut sans doute aller un peu plus loin, peut-être. Donc, voilà. Qu'est-ce que c'est que l'artillerie? Quel type d'arme est-ce que c'est? Et puis, on va en reparler, mais où est-ce que ça commence et où est-ce que ça finit?
Alors, où est-ce que ça commence, où est-ce que ça finit? C'est très intéressant parce que vous avez pris l'angle de l'équipement. Je vais revenir là-dessus quand on va revenir sur la question de la définition à proprement parler, mais je pense qu'il est important en fait de revenir un peu sur l'histoire de l'artillerie. C'est effectivement une arme centrale. Les historiens diront même qu'elle est peut-être même centrale dans la construction des États-nations que ce soit en Europe ou même d'ailleurs dans les empires musulmans, où elle a énormément aidé en fait à la mise en place d'un pouvoir central qui était fort.
Alors ça, je peux le dire tout à fait, c'est absolument pas notre sujet, mais je vais faire une parenthèse d'une seconde. C'est une grande théorie, je suis un peu historien de l'artillerie à l'époque moderne, c'est une des grandes théories, c'est que globalement, l'artillerie, les canons, ça coûtait tellement cher que ça a imposé d'avoir des organes, disons, centralisés militaires pour à la fois les faire produire et en même temps gérer, distribuer le stock, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant dans la guerre médiévale. Mais bon, on n'est pas sur des débats, enfin, c'est pas le débat central pour l'Ukraine aujourd'hui.
Voilà, ce n'est pas du tout le débat central, mais il y a quelque chose, il y a une permanence en tout cas chez l'artillerie, c'est qu'on va on va parler d'armes savantes. Et c'est une arme savante parce que très tôt, elle exige des calculs. C'est une arme à longue portée, donc c'est une arme qui, enfin à longue portée par rapport aux autres armes en tout cas, donc c'est une arme qui très vite va nécessiter tout simplement des connaissances en mathématiques, et ça tombe bien puisque bon, à l'époque moderne, on est effectivement en pleine révolution culturelle, plutôt en pleine évolution, accélération d'une évolution culturelle, et donc c'est pour faire des calculs de charge, d'azimut, d'élévation, etc. L'arme est savante. Ceci dit, et ça c'est le point sur lequel j'aimerais revenir, parce qu'en fait, il y a pas mal de choses qui vont dérouler et qui vont être assez pertinentes par rapport à ce dont on va parler au sujet de la Russie et de l'Ukraine. C'est que il y a des progrès qui sont faits au XIXe siècle en métallurgie et notamment dans les projectiles explosifs et le fait que l'on combine désormais le chargement par la culasse et des canons rayés vont provoquer un bond énorme, une multiplication en fait de la portée des canons. Il émerge également la nécessité que ces canons soient beaucoup plus loin de l'infanterie qu'il ne l'était avant, puisque pendant la guerre de sécession, typiquement, les fusils à canon rayé portaient à plus de 1000 mètres, et ça permettait tout simplement que l'infanterie s'en prenne à l'artillerie, enfin, aux artilleurs en tout cas. Et donc cet allongement de la portée va donner des idées en fait, à des gens, notamment un lieutenant-colonel russe qui s'appelle lieutenant-colonel Gueuk, et fait des recherches sur le tir indirect. Puisque les armes ont désormais une portée qui va au-delà en fait de l'horizon, vers 1880, ce monsieur théorise que l'on peut effectivement tirer sur un point sur une carte.
Ça, on peut dire que c'est très important parce que c'est un changement radical au sens où on passe de bon bah voilà, on tire sur quelque chose. Alors évidemment, ça va de plus en plus loin, mais globalement, on voit. Sur quoi on tire, désormais, bah, c'est beaucoup plus. Donc le tir indirect, on peut dire, c'est simplement. Appelons ça un tir en cloche, quoi. On tire en l'air et on sait à peu près où ça retombe. Et désormais, les performances sont telles que ça peut être extrêmement loin, bien au-delà de la vue, disons, du champ de vision de ceux qui opèrent les canons.
Alors, il faut toute proportion garder à ce sujet. Le tir en cloche existe depuis. Plus longtemps que cela, avec les mortiers, qui tiraient notamment sur les forteresses et qui tiraient sur des cibles qu'ils ne voyaient pas, puisqu'ils tiraient à l'intérieur des murs des forteresses qui étaient assiégées. Et de même, cette artillerie à longue portée n'enlève pas du tout l'artillerie directe qui continue d'exister. Hein, le fameux canon de 75 français est une arme à tir direct, et même durant toute la Seconde Guerre mondiale, l'artillerie anti-char est une arme à tir direct. C'est un canon que l'on cache sur une roue, dans une impasse ou quelque chose comme ça pour tendre des embuscades aux chars. Et il tire à très courte portée. Mais il y a un changement. On bascule vraiment, et surtout avec la Première Guerre mondiale et la guerre de tranchées. L'artillerie, effectivement, bascule dans une nouvelle ère, l'ère du tir indirect. Ça commence avec la guerre des bourgs, d'ailleurs. Hein, et ça se généralise vraiment en 14-18. Et l'artillerie devient effectivement la reine des batailles. Elle cause, grosso modo, 75% des pertes, des deux guerres mondiales. Mais ça implique quelque chose. Ça implique en fait trois choses. La première chose, c'est qu'effectivement, la cible est au-delà de l'horizon, comme je l'ai dit. La deuxième chose, c'est que cela va nécessiter en fait des observateurs avancés. Si les servants de la pièce ne voient plus leur cible, il faut que quelqu'un proche de la cible, en tout cas à portée visuelle de la cible, la trouve simplement et relève les coordonnées. Et la troisième chose, c'est que ces fameuses coordonnées, il va falloir qu'elles soient transmises. On tombe donc effectivement sur la nécessité aussi qu'il y ait des lignes de communication entre les canons, un poste de commandement qui va contrôler tout ce processus et les observateurs. Et donc l'artillerie, c'est une arme qui est réseau centrée depuis le début du XXe siècle. C'est un système de systèmes d'armes. Et c'est à la fois sa force et sa faiblesse. Et dans le conflit qui actuel en fait en Ukraine, les implications en fait de ces trois choses ont des conséquences.
Mais alors, si on peut revenir juste une seconde sur la définition dont on avait commencé à partir et sur le matériel. Je vais vous relancer quand même sur le matériel parce que moi j'aime bien. Bon, par exemple, prenons un char d'assaut. Un char d'assaut, on en parlait il y a quelques semaines avec Johan Michel et Michael Shurkin, mais à bien des égards, bon, c'est un gros canon qui est monté sur une plateforme blindée. Alors après, les calibres des canons peuvent changer, mais globalement, on pourrait dire que ces canons, ils peuvent aussi tirer en cloche, ils peuvent tirer de toutes sortes de manières différentes. Est-ce qu'un char d'assaut, avec sa tourelle qui peut tirer des obus, y compris assez loin, est-ce que ça fait partie de l'artillerie ?
Non. Par contre, la description que vous venez de donner, c'est également la description d'un canon automoteur, que les journalistes d'ailleurs confondent allègrement en fait avec un char d'assaut. Non, mais un char d'assaut a une portée autrement plus limitée. Le canon d'un char d'assaut est conçu pour tirer en tir tendu, en cloche. D'ailleurs, la immense majorité des chars d'assaut ont des canons à âme lisse et non à âme rayée, sauf les Britanniques qui, décidément, ne font rien comme tout le monde. C'est parfait que vous me posiez la question parce qu'en fait, moi, j'aurais trois types de définitions à donner à l'artillerie. La première définition, elle est matérielle. On va parler d'équipement. Et là, en termes d'équipement de l'artillerie, ben, on a des canons. On a des canons lourds, on a des canons légers, on a des canons qui sont automoteurs, donc c'est-à-dire sur des tourelles, sur des châssis chenillés qui sont souvent des châssis d'anciens chars. On en a d'autres qui sont mis sur des camions, comme le César français, mais ce n'est pas que ça. L'artillerie, en termes d'équipement, ce sont des missiles, ce sont des mortiers, quelquefois, en tout cas, en France, ça l'est, les mortiers de 120 mm font partie de l'artillerie. C'est de la défense contre avion aussi, ce sont des missiles, donc ça, c'est la définition équipement. Et puis, il y a une définition qui serait structurelle, dans le sens organisationnel. L'artillerie, c'est une arme. Si c'est une arme, si on prend par exemple l'artillerie française ou même l'artillerie britannique, ça comprend également les drones, les radars, la détection acoustique et bien d'autres spécialités, partie de sa propre logistique également. Donc on sort déjà des canons. Et en fait, il y a une troisième définition qui est la définition conceptuelle. Ici, l'artillerie, c'était avant tout des effets. Et typiquement, dans un groupement tactique interarmes, la cellule de coordination des feux, c'est un officier d'artillerie qui va contrôler alors de l'artillerie, mais pas que. Il va contrôler également les moyens de tir indirect de l'infanterie que sont les mortiers d'infanterie, les mortiers de 80 mm. Mais il va également contrôler de l'aviation. Il va contrôler des hélicoptères, bien d'autres, grosso modo, tout ce qui fait boum.
Alors maintenant, j'aurais évidemment voulu parler des forces en présence en Ukraine. Et là, je peux dire que, alors vous avez commencé à le dire, mais l'artillerie russe a traditionnellement une très grande réputation qui remonte probablement au moins à la Seconde Guerre mondiale, où on a peut-être ces images de l'artillerie russe, ce qu'on appelait parfois les orgues de Staline, qui pilonnaient les armées allemandes et qui arrêtaient les offensives allemandes. Mais sans remonter jusque-là, et vraiment pour s'intéresser au contexte récent, bon, il y a quelques mois encore, au moment de déclenchement, disons, de l'invasion de l'Ukraine, où en était cette artillerie russe, ou en tout cas, quelle était sa réputation ? Est-ce qu'ils avaient toujours cette réputation de très grande qualité qui avait marqué quand même les armées russes pendant une bonne partie du XXe siècle, en tout cas ?
Alors, comme beaucoup de gens, moi, je suis également un lecteur assidu de TSI. Je me suis pas mal penché sur la question ces trois dernières années, grosso modo. J'ai été coupable, comme beaucoup de gens, d'une surestimation des capacités de l'artillerie russe. Avant-guerre, en tout cas, cette artillerie, le dieu de la guerre de Staline, elle a une réputation qui n'est pas tout à fait usurpée parce qu'en fait, le matériel, il est là. Il y a énormément de pièces, donc il y a un surnombre. Il y a un avantage en portée. Alors, ce n'est pas un avantage en portée à matériel équivalent, c'est-à-dire, en fait, typiquement un canon automoteur russe de 152 mm, comme un 2S19, n'a pas de portée grandement supérieure, n'a tout simplement la même portée qu'un automoteur blindé du même type comme les AUF1 français ou comme les AS90 britanniques. L'avantage de la portée de l'artillerie russe réside vraiment dans ces systèmes de lance-roquettes et notamment de lance roquettes sur des châssis mobiles. Donc toute la missilerie sol-sol russe avec des portées absolument faramineuses allant jusqu'à 400 km voire au-delà. Mais déjà à cette époque-là, il y avait des gens qui effectivement avançaient deux bémols. Et même moi, je remarquais deux ou trois petites choses. La première, c'est que, comme le reste de l'armée russe, il y a eu un gros creux. Il y a eu une véritable traversée du désert à la sortie des années 90, donc avec la fin de l'URSS, où effectivement, comme tout le reste de l'armée rouge, de l'ex-armée rouge, l'armée russe tombe dans la déliquescence la plus totale. Et donc, il y a une espèce de reprise en main à partir du début du règne de Poutine, où effectivement, on dégraisse le mammouth, on perd du gras, on gagne du muscle, en tout cas c'est le début, et on essaie de développer des nouveaux systèmes. Alors, est-ce que ces nouveaux systèmes ont été développés ? Oui, désormais en fait, leur niveau d'avancement est mis en doute, et il reste énormément de systèmes plus anciens, qui sont d'une énorme variété, ce qui, à mon avis, va causer des cauchemars logistiques. Et l'autre problème, c'est qu'effectivement, tout ce matériel est servi par des conscrits. Grosso modo, au moins un tiers des troupes sont des conscrits. Et il y a un autre problème typiquement, et ça l'est d'autant plus pour une arme que l'on dit s'invente justement. On dit arme s'invente, c'est que ça exige un certain savoir technique. C'est que l'armée russe a des soldats et des officiers. Elle n'a pas développé un corps de sous-officiers digne de ce nom. C'est-à-dire vraiment d'experts techniques qui accumulent de l'expérience et qui sont les experts dans leur domaine, dans leur métier. Et c'est un problème. C'est un problème majeur, surtout pour des armes pareilles. L'autre truc aussi, c'est que pas mal de gens ont été sont tombés dans le panneau des grosses manœuvres soviétiques. Quand on voyait l'artillerie russe en manœuvre lors des exercices type Zapad, tout le monde était là absolument époustouflé de voir ces centaines de bouches à feu alignées qui tirent en même temps. Mais Zapad est une démonstration, une démonstration de force. Ce n'est pas un exercice, ce n'est pas quelque chose où les forces russes se mettent à l'épreuve. Parce qu'à ce niveau-là, je renvoierai à un autre article que j'ai écrit sur The Weapon Room qui s'appelait « The British Army has a black belt in bullshit » à ce sujet et à la nécessité de ce que les entraînements, en tout cas les manœuvres, à défaut de réalisme, mettent en fait les troupes qui s'exercent sous pression et notamment qu'il y ait en face une opposition réelle et libre et non scriptée et non scénarisée. J'ai juste terminé en tout cas sur l'artillerie russe pour le coup parce que bon, j'ai émis là non pas un avis critique mais en tout cas j'ai cité les menaces qui pèsent potentiellement sur l'artillerie russe avant-guerre. Il faut comprendre que bon, l'artillerie russe elle est à l'œuvre dans le Donbass depuis 2014 et les rapports qui en revenaient étaient assez alarmistes quant à leur efficacité, c'est-à-dire qu'en fait l'artillerie russe se montrait redoutablement efficace sur le front du Donbass durant la guerre de position qui a duré de 2014 à 2022. Et je discutais énormément avec des gens qui sont autrement plus experts que moi sur la question, dont pas mal de Finlandais sur Twitter, puisque je j'étais assez curieux de tout ce qui est temps de réaction de l'artillerie russe, en même temps ils peuvent frapper, etc. Et effectivement, les échos qui me revenaient, parce que bon, les Finlandais sont quand même particulièrement intéressés par l'artillerie russe qu'ils étudient de très près, pour des raisons évidentes, mais aussi parce qu'ils utilisent le même matériel. Une bonne partie de l'artillerie finlandaise, c'est du matériel russe. Donc, l'artillerie russe, elle ne faisait pas montre d'inefficacité. Et aux dernières nouvelles, d'ailleurs, durant le conflit actuel, il n'y a pas de faillite. Total, le potentiel de destruction de l'artillerie russe est toujours là. On l'a vu à l'œuvre à Mariupol, on l'a vu à l'œuvre dans les autres sièges qui ont eu lieu. Ce n'est pas la même chose que les colonnes blindées russes qui se font taper à coups de javelin Henlow ou de Bayraktar. L'artillerie russe remplit un des rôles majeurs de l'artillerie qui est de causer de l'attrition. Ça, elle le fait très bien. Elle le fait toujours très bien.
Alors ça, c'est ce qu'il en est de l'artillerie russe, avec ses faiblesses qui ne sont pas propres qu'à l'artillerie, qu'à l'arme artillerie, et avec ses forces. Mais pour compléter le tableau, il faut évidemment parler aussi de l'artillerie ukrainienne, dont on voit une certaine efficacité ces derniers temps, parce que c'est un des grands avantages, c'est une de leurs grandes, un de leurs grands outils pour freiner l'avancée russe. Mais avant d'en juger les résultats, qu'est-ce qu'on savait qu'ils avaient, puisqu'on imagine bien que, dans une certaine mesure, comme pour beaucoup de l'armée ukrainienne, ça devait être aussi des équipements russes ou anciens soviétiques, en tout cas. Donc, qu'en était-il des Ukrainiens? Qu'est-ce qu'ils ont comme matériel? Et en tout cas, quelle image est-ce qu'on se faisait de leur capacité du point de vue de l'artillerie, disons fin février, quoi?
Alors, pour le coup, c'était exactement le même matériel, et en moindre quantité. Donc voilà où on en était. L'armée ukrainienne, et en particulier en 2014, c'est une armée qui a un équipement soviétique vétuste, qui est le même, voire légèrement moins bon que celui des Russes, et qui est formé exactement de la même façon que les Russes, et qui souffrent en fait des mêmes tares sur le plan en fait de la formation des servants. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Ben depuis, en fait, je crois que les Ukrainiens sont restés extrêmement discrets sur l'évolution de leur artillerie. Et je crois qu'ils ont vécu cachés et qu'ils ont fait énormément de progrès entre temps, qu'ils ont soigneusement caché tout en poursuivant la guerre dans le Donbass. Qu'ils n'ont pas gagné d'ailleurs. Hein. S'il y avait eu une brusque évolution de l'artillerie ukrainienne, ça se serait dit. À moins qu'ils aient fait exprès de la masquer. Ça, c'est une autre option. Mais la guerre du Donbass depuis 2014, c'est une guerre de position où l'artillerie était prépondérante pour causer cette fameuse attrition. Donc, on n'était pas vraiment dans l'artillerie qui manœuvre. Et il y a eu énormément d'erreurs qui ont été faites. Ou en tout cas, à cette époque-là, les Ukrainiens ont préféré rapporter leurs erreurs plutôt que d'entrer en fait dans une narration où ils se mettent en valeur. Donc, on est toujours un peu quelque sorte soumis aux aléas de la propagande de chacun. Mais pour vous donner typiquement en fait deux exemples, hein, donc je vous donne un épisode de ce qui est arrivé sur ce front-là à l'époque, en tout cas des échos qui nous sont revenus. Donc il y a un type de radar assez particulier que l'on utilise, qui est un radar américain que les Américains utilisent, que les Britanniques utilisent également, qui est un radar en fait qui sert à repérer les mortiers, donc qui détermine le point d'origine et le point d'impact. En suivant tout simplement, hein, il détecte l'obus en vol et détermine ces choses. Le problème, c'est que cet appareil est assez détectable, puisqu'en fait, il utilise des ondes radar, il est assez détectable en termes de guerre électronique. Or, les Russes en tout cas, avaient une réputation aussi qui était assez poussée en fait en matière de guerre électronique. Et donc, ils ont repéré ce radar et ont tout simplement annihilé le kilomètre carré où ce radar se trouvait, en utilisant non pas des armes de précision, mais comme à leur habitude, des lance-roquettes, et sans doute des lance-roquettes à sous-munitions.
Donc ça, cette destruction du radar, c'était évidemment avant les opérations actuelles, c'était dans la guerre du Donbass qui a duré 8 années, de 2014-2015 à fin 2021.
Absolument, c'est même au tout début de la guerre, puisqu'en fait les échos de cet incident me sont parvenus vers 2016. Et de même, en fait, j'ai eu un écho d'un autre incident, qui pour le coup est un incident de cyberguerre, et qui montre en fait que l'intégration en fait hein, de la cyberguerre et de l'artillerie. Typiquement, à l'époque, les Ukrainiens étaient tellement mal formés sur ce front qu'ils sont en fait tombés dans un piège. Les Russes, en tout cas les services cyber russes, ont tout simplement mis en ligne une application de pointage de mortier, et les artilleurs ukrainiens, comme ils étaient mal formés, ils étaient en tout simplement demande de ce genre de choses, et ont téléchargé l'application qui a utilisé les données de géolocalisation des téléphones qu'ils utilisaient et qui l'envoyaient directement au centre de coordination des feux russes. Donc dès que les Ukrainiens utilisaient leur smartphone pour pointer leur mortier, ils se faisaient aussitôt annihiler par un tir de contre-batterie, mais quasiment préventif. Donc ça c'est le genre de choses qui sont arrivées assez tôt dans le conflit du Donbass aux Ukrainiens. Et je pense, pour le coup, que ça a vacciné, en quelque sorte, les forces ukrainiennes. Comme on a eu une guerre, un conflit qui, bien que de haute intensité, dans les moyens engagés, faisait rage, il y avait des pertes, etc., il y avait une véritable guerre de tranchées, mais il était endémique en termes de rythme, et même d'engagement tout simplement des effectifs, ce n'avait rien à voir avec l'invasion qui a eu lieu cet hiver. Il y a eu énormément de leçons qui ont été tirées en fait de toutes ces erreurs. Et il y a d'autres choses en fait. qui vont faire une différence. Alors, là, je parle plus pour l'armée ukrainienne en général, mais les forces armées entre 2014 et 2021 n'ont rien à voir en fait avec les forces armées ukrainiennes maintenant. Avec la levée en masse, la mobilisation générale de la population, on a eu en quelque sorte un bond qualitatif. Il y a eu des gens qui sont notamment plus éduqués et qui ne sont normalement pas tentés par qui auraient été dans une circonstance normale, pas du tout tentés par la chose militaire, qui se sont retrouvés instantanément sous les drapeaux. Et ça se reflète dans une forme d'ubérisation de la guerre et de mobilisation en quelque sorte de la start-up nation. Or, je l'ai dit, l'artillerie est une arme qui, par définition, depuis le début du XXe siècle, est une arme réseau-centrée. Donc, tout cet apport, en fait, va avoir une incidence directe sur le fonctionnement de l'artillerie ukrainienne. Et il y a un autre phénomène, c'est l'aide par les formateurs occidentaux. On voit que les Ukrainiens sont désormais assez différents des Russes dans leur façon d'aborder l'artillerie. Donc il y a eu des changements qui sont également des changements de formation, des changements de doctrine, des changements de structure. En termes de structure, la structure en fait des formations d'artillerie ukrainienne est beaucoup plus éclatée que les grosses formations russes. Les Russes opèrent tout simplement des brigades d'artillerie qui ensuite distribuent généralement des régiments d'artillerie à différentes brigades de combat, notamment des brigades d'infanterie motorisée ou de chars, les Ukrainiens opèrent de manière beaucoup plus éclatée. Or, la dispersion, c'est généralement un gage de survie dans une guerre d'artillerie.
Justement, donc là, on a vu donc le saut qualitatif. Mais s'il fallait faire pas un bilan, c'est évidemment trop tôt pour faire un bilan définitif, mais en tout cas un constat sur ce qu'on a vu depuis le début de la guerre. Bon, je vais le formuler comme ça, un peu de manière un peu lapidaire. Est-ce que quelqu'un a gagné la bataille de l'artillerie en valeur absolue ou peut-être en valeur relative, c'est-à-dire par rapport à ce à quoi on pouvait s'attendre avant-guerre? Non, c'est cette invasion de l'Ukraine donc depuis fin février.
Alors je dirais non, mais je dirais qu'en fait le fait que les Ukrainiens, que l'artillerie ukrainienne ait survécu à l'attaque initiale russe tient du miracle et montre qu'en fait en termes de qualité, sa qualité est supérieure à l'artillerie russe. Ceci dit, dans l'absolu, l'artillerie russe est toujours là, toujours efficace et toujours à garder son potentiel de destruction. Moi, ce que je comprends en fait de ce que les Ukrainiens sont en train de montrer, et c'est un formidable laboratoire de la guerre en fait, vraiment de l'évolution de l'artillerie, c'est d'une part l'intégration interarmes. Les Ukrainiens utilisent par exemple de l'OSINT pour trouver des cibles. Il y a eu récemment un incident qui a été documenté sur les réseaux sociaux où un journaliste, en tout cas un journaliste de propagande russe, était en train de faire un reportage. Il agitait le bras, etc., montrant la qualité des canons russes et en faisant les éloges de l'artillerie russe. Et il y avait un Ukrainien qui était devant sa télé, qui regardait tout ça et qui a fait tout simplement de l'OSINT et qui a trouvé exactement l'endroit où se trouvait le gars. Et là-dessus, bah, tout de suite, tir d'artillerie. Ou encore, il y a l'histoire de cet homme qui s'est fait voler son smartphone ou en tout cas un objet connecté de chez lui par un soldat russe et qui a tout simplement traqué en ligne, géolocalisé le voleur a suivi le voleur qui se déplaçait pas tout seul, puisqu'en fait il était avec toute son unité, et qui a transmis tout simplement les coordonnées à l'artillerie ukrainienne. Donc il y a cette intégration-là, et puis surtout, moi ce qui m'étonne surtout chez les forces ukrainiennes en général, mais dans l'artillerie en particulier, c'est qu'elle est en train d'évoluer. À l'heure où nous parlons, elle évolue très rapidement, et elle n'a pas fini sa mue. Elle est en plein dedans, en fait. Il y a eu aussi la guerre de Nagorno-Karabakh, où il y a eu un véritable réveil des états-majors sur l'importance de l'artillerie et de sa coordination avec les drones et la guerre électronique. On a vraiment tendance à oublier, parce que tout ce qu'on a vu, c'était les Bayraktar et des images de Killcam, parce que bon, c'est quand même ce qui est spectaculaire. Mais avant cela, les Azerbaïdjanais ont saturé le champ de bataille, en fait, en termes de guerre électronique, et ont tout simplement aveuglé les Arméniens avant. Non seulement ils les ont aveuglés, mais ils ont aussi utilisé la guerre électronique pour faire tout simplement du repérage, de la localisation, ce qu'on appelle direction and range finding. Donc en utilisant tout simplement, en repérant les signaux radio, on peut trouver par exemple les postes de commandement. Donc l'Ukraine a aussi gardé un œil sur ce conflit, parce que ce conflit ressemblait furieusement à celui qu'elle connaissait en fait dans le Donbass, en termes d'intensité et de matériel qui étaient mis en œuvre.
Mais alors, justement, est-ce qu'il y a des choses qui... Donc, il y a toute cette partie OSINT. Est-ce qu'il y a d'autres innovations, peut-être, dans la... En tout cas, dans l'emploi de l'artillerie? Je pense notamment... il y avait un très bon dossier dans DSI il y a quelques temps maintenant, sur justement l'artillerie dans le Donbass, où, précisément, par exemple, une grande nouveauté des Russes, ça avait été d'utiliser massivement des drones pour le ciblage. Pour leur artillerie, pour désigner des cibles et faire interagir en tandem les canons et les drones de surveillance de reconnaissance. Est-ce qu'il y a d'autres innovations que vous avez pu voir, qui vous ont marqué dans l'emploi de l'artillerie dans la guerre actuelle?
Alors, l'innovation majeure, c'est plutôt effectivement tout ce qui est OSINT et utilisation en fait des champs et de leurs objets connectés. Et là, pour le coup, ce sont les Ukrainiens qui ont un avantage, c'est qu'en fait, ils sont envahis, que n'importe quel citoyen peut se transformer tout simplement en observateur d'artillerie, ce qui est assez énorme. Mais non, il n'y a pas vraiment d'évolution technique en termes de matériel. Et même quand on parle des drones, on a tendance à oublier que les drones sont une vieille technologie pour l'artillerie. La plupart des artilleries occidentales ont des drones depuis certaines quasiment les années 60. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et on a aussi tendance à oublier que le drone n'est pas une arme miracle. Il peut effectivement repérer des cibles, mais il ne peut pas surveiller tout un champ de bataille, plutôt toute une zone d'opération. C'est impossible. Il faut renseigner ces drones. Il faut leur donner des zones cibles à surveiller. Donc il y a une nécessité d'une articulation avec le renseignement. En fait, pour le coup, ce que les Ukrainiens font vraiment bien pour l'instant, c'est de mettre en œuvre, les savoir-faire occidentaux. Et typiquement, c'est pour beaucoup de formateurs occidentaux, c'est assez rafraîchissant après 20 ans à faire de la contre-insurrection et à essayer de former des populations, ou en tout cas des soldats issus de populations qui souvent n'étaient même pas forcément lettrés ou alphabétisés, ou en tout cas qui avaient des lacunes. Donc, il n'est tout simplement pas intéressé pour apprendre des armes plus complexes.
Alors, justement, sur ce soutien occidental, alors c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé. Pour la France, c'est les canons César qui seraient livrés. Alors, bon, après, combien? C'est une question, parce que déjà que la France n'a pas des wagons, des camions César, donc il faut voir combien ils pourraient en livrer. Mais en tout cas, il y a des canons américains, les M777. Peut-être des canons suédois ou britanniques. Et évidemment, ce qui va avec, c'est toute une partie d'instruction où apparemment il y aurait un certain nombre de soldats ukrainiens qui seraient en train de se former ou qui se seraient déjà formés dans des bases occidentales en Europe et qui seraient sur le point ou qui seraient déjà revenus sur le front en Ukraine pour appliquer ces savoirs au matériel et le faire avec des matériels occidentaux, donc changer en quelque sorte de paradigme, c'est-à-dire des vieux matériels soviétiques, voire russes, passer à des matériels occidentaux, ce qui, bon, on peut dire, c'est des changements, parce que c'est pas les mêmes calibres, c'est du 152 contre du 155, c'est anecdotique, mais mine de rien, ça fait que du coup, c'est pas les mêmes obus, c'est pas les mêmes projectiles. Donc simplement, Qu'est-ce qu'on peut attendre de ça? C'est-à-dire, est-ce que c'est un saut qualitatif énorme? Les armes, les pièces d'artillerie qui pourraient être fournies à l'Ukraine par, disons, appelons ça le bloc occidental, par rapport aux armes russes? Ou est-ce que c'est plus une question justement d'être capable de continuer les flux logistiques, c'est-à-dire de continuer à avoir les munitions qui pourraient donc être fournies par les Occidentaux, parce qu'évidemment, on se doute bien que ça va être difficile de produire des munitions pour les vieux matériels russes.
Dans les circonstances actuelles, je pense qu'en fait, les forces armées ukrainiennes ont démontré justement leur capacité d'adaptation. Surtout, comme je l'ai dit, il y a eu cette injection en fait de sang neuf à travers la mobilisation générale. Et quand je dis sang neuf, je parle également, encore une fois, de gens qui sont curieux techniquement, mais surtout qui n'ont pas d'a priori. Il y a un mélange qui est en train de marcher, qui est en train de détonner chez les Ukrainiens, c'est celui des vétérans formés à la soviétique, mais dont certains ont effectivement l'expérience du feu, que ce soit en Afghanistan ou au Donbass, et effectivement toute une jeune génération, qui est patriote aussi, mais qui a des compétences techniques et même une éducation qui leur permet d'aborder typiquement une formation à l'occidental avec un regard neuf et de l'accepter sans rechigner, sans traîner des pieds. Sans faire de résistance, tout simplement. Et pour le coup, c'est la combinaison de cela et du matériel occidental qui pourrait changer la donne. Dans toute autre circonstance et dans un autre conflit, je dirais que cette greffe est une mauvaise idée. C'est-à-dire que d'envoyer du matériel occidental à une armée qui n'est pas formé, etc., ce n'est pas une bonne idée. Et on l'a vu lors des guerres contre la terreur où on a laissé du matériel à des armées et créé une dépendance logistique d'ailleurs. Tout cela pour enlever effectivement leur couper les vivres après un bout de temps et les laisser se débrouiller avec du matériel pour lequel il n'y avait plus de pièces de rechange, plus de munitions, et de les voir s'écrouler, que ce soit l'armée irakienne face à l'État islamique. Début de l'expansion de l'État islamique, ou que ce soit l'armée afghane face aux talibans l'été dernier. Mais pour les Ukrainiens, c'est différent. Et cette histoire de formation occidentaux, eh ben, ce n'est pas nouveau. La formation des soldats ukrainiens par des occidentaux, c'est quelque chose qui a lieu depuis plus longtemps que ça. Les années 2014, il y a que ce soit en Roumanie ou en tout cas aux frontières de l'Ukraine, il y a des gens qui des forces armées occidentales qui forment les Ukrainiens.
Donc là on voit bien les capacités ukrainiennes qui sont ce qu'elles sont et qui risquent de monter en puissance. Si on peut-être pour terminer, si on essaye de passer peut-être à un degré plus fin, alors évidemment on n'est pas sur le terrain, donc c'est très difficile de savoir précisément ce qui se passe, mais simplement est-ce que, c'est-à-dire on voit bien que malgré l'aide que peuvent fournir les États-Unis, la France, qui s'agent, enfin d'autres encore à l'Ukraine, le volume de feu, le volume de bouche à feu est quand même assez déséquilibré. Les Russes en ont énormément par rapport aux Ukrainiens, quoi qu'il arrive. Est-ce que, dans une certaine mesure, peut-être la précision, la qualité accrue, en tout cas, des armes qui leur seraient fournies, peut permettre d'accentuer, de diminuer ce décalage? Ou est-ce que, bon, dans une certaine mesure, malgré tout, ce qui fait la différence dans l'artillerie, c'est quand même la quantité, la masse qu'il est possible de déployer, et que donc il y a en quelque sorte un plafond aux améliorations possibles pour les performances ukrainiennes en matière d'artillerie?
Alors, c'est très intéressant. Si l'on prend en fait le duel d'artillerie, ça existe. Hein, c'est vraiment quand les artilleries s'affrontent et non pas quand quelque chose de complètement différent s'occupe de l'artillerie adverse et vice-versa. Quand on pense à un duel d'artillerie, il faut exactement penser à un duel de western léonien. C'est à celui qui tirera le plus vite et de manière la plus précise possible. Et typiquement, ce qui va faire la différence entre les deux, ce n'est pas la rapidité des servants de pièces. C'est la fameuse boucle OUDA qui a été inventée par Boyd. si on a une boucle OUDA plus rapide que celle de l'adversaire, ou si on arrive à rompre ou à, en tout cas déranger cette la boucle de l'adversaire, on prend l'avantage avant même de tirer.
Alors, boucle OEDA, je vais quand même le rappeler une seconde, c'est donc un concept donc, de John Boyd qui était un pilote de chasse, ça a été notamment appliqué pour beaucoup pour l'aviation, c'est quatre étapes d'un processus de tir, c'est observer, orienter, décider et agir, OEDA. Donc c'est bon, une idée qui est bon, assez intégrée dans les doctrines, notamment occidentales, que plus cette boucle OEDA est rapide, plus on a un avantage, en tout cas plus on a l'avantage de la rapidité. Quoi.
Absolument, c'est ça. Et l'autre terme que nous utilisons en fait, nous autres anglophones, c'est le sensor to shooter link, donc typiquement le lien entre le capteur et le tireur. Ce lien doit être le plus court possible, pour qu'effectivement, à partir du moment où on repère quelque chose, une cible, que ce soit l'artillerie adverse ou autre chose, bah, le tireur, donc qui est tout simplement la pièce d'artillerie elle-même, tire au plus vite. Alors qu'est-ce qu'on a pour trouver la personne ? On a des humains, on a typiquement des équipes d'opération dans la profondeur, on a des observateurs avancés avec des optiques, on a des drones, mais ces drones, encore une fois, il faut qu'ils puissent savoir où trouver, grosso modo, une zone à surveiller. Et on a dans le cas des Ukrainiens, la population civile qui maintenant fait du repérage, voire il suffit de faire de l'OSINT et de regarder à la télé pour trouver les Russes. Mais il y a également, en fait, des radars de contre-batterie, des radars sur des drones MAL aussi, moyenne altitude, endurance. Il y a la détection acoustique qui permet par triangulation, en fait, de repérer les pièces adverses. Et puis, il y a la guerre électronique dans le cyber. Et la guerre électronique, c'est intéressant parce qu'en fait, la guerre électronique ne va pas repérer les canons. Elle va repérer typiquement les postes de commandement. Et là, se pose la question, qu'est-ce qu'on veut détruire? Est-ce qu'on veut détruire le canon? Et dans ce cas-là, effectivement, on sape le potentiel de l'adversaire. Est-ce qu'on veut détruire le poste de commandement? Et dans ce cas-là, effectivement, on arrête les tirs et on handicape à long terme, puisqu'en fait, on tue du personnel qui est du personnel gradé, qui sont des commandants et qui ont de l'expérience, mais le potentiel de destruction, lui, il est intact. Donc, dans ce domaine-là, ce qui va faire la différence par rapport à survivre à tout ça, c'est la discipline. C'est la discipline et ce que j'ai dit, la boucle OUDA et la longueur du lien capteur tireur, mais la discipline va être très importante pour survivre à l'adversaire. Et ce que je veux dire par discipline, c'est que typiquement, on a vu, par exemple, dans les troupes blindées russes, dont l'artillerie automotrice fait partie. Donc, les troupes montées sur les deux S-19, les fameux canons de 152 sur châssis chenillé, sont aussi coupables comme le reste des troupes blindées de ce genre de choses. C'est que la discipline chez les Russes semblait faire défaut. Toutes les questions de dispersion, de camouflage, de déception, on les voit, par exemple, avancer en colonne parce qu'en fait, ils ont peur de se perdre, avancer tout rapproché parce qu'en fait, ils ont peur de perdre contact avec le véhicule de devant. Et tout cela, pour le coup, c'est le capital humain qui va faire la différence. C'est la rigueur de l'entraînement, et pas que la rigueur de l'entraînement, c'est la rigueur de l'éthique aussi. Un équipage d'artilleurs, par exemple, bon, quand ils s'arrêtent, quand ils sont censés mettre leur véhicule à l'abri, dans les arbres, ériger un filet de camouflage. C'est épuisant, c'est fatigant, il faut le faire vite, faut souvent le faire dans le noir, sans lumière, et ensuite faire ce qu'on a à faire, et ensuite, quand il faut repartir, il faut remballer tout ça et repartir. C'est du travail en plus. Et ça, c'est beaucoup plus difficile de le demander à un conscrit qu'à un professionnel. Donc, est-ce qu'il y a un manque de pertinence des entraînements des Russes, ou est-ce qu'il y a un problème plus profond, typiquement un problème un peu plus de politisation d'une armée qui est soumise à un dictateur où il n'y a pas d'esprit critique, pas de progrès, donc pas de disruption, pas d'innovation, tandis que dans l'armée ukrainienne, en artillerie ukrainienne en tout cas, on voit du changement, on voit de l'innovation, on voit des types avec des imprimantes 3D typiquement faire des ailettes pour des obus de mortier que l'on peut larguer depuis des quadcoptères. Des drones quadcoptères, par exemple. Il va y avoir une différence typiquement entre une artillerie qui évolue ainsi et une artillerie où les chefs sont choisis pour leur loyauté politique et où l'efficacité n'est que de façade à travers des exercices, comme j'ai dit, des manœuvres comme Zapad, où il s'agit de se faire bien voir par le dirigeant d'impressionner un peu le dirigeant d'à côté, typiquement comme Loukachenko, mais qui ne sont pas des mises à l'épreuve. En même temps, ce sont des défauts qui ne sont pas forcément absents des armées occidentales. C'est quelque chose qui menace quand même. On ne sont pas exemple de ce genre de tare.
Très bien. Eh bien. Merci beaucoup, Ryan Nourdali, pour ce tour d'horizon de l'artillerie, reine de la bataille, reine de la guerre, au sein de cette guerre d'Ukraine depuis maintenant bientôt 3 mois.
Mais de rien, Alexandre.
C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont les bienvenus par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, ainsi que notes et commentaires sur Apple Podcast ou encore sur SoundCloud. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.